La prédication protestante. Chaque dimanche, un pasteur propose le commentaire d'un texte de la Bible centré sur le Christ.
Bonjour, chers auditeurs de Radio Présence. C'est une joie pour moi de vous retrouver après cette trêve de l'été. Et j'ai à nouveau à cœur de partager ce beau message de l'Évangile avec vous. Donc je suis le pasteur Luc Goyot, pasteur à l'église Horizon, qui a deux sites dans la région, un à Colomiers et un à l'Île-Jourdain. Et moi, je m'occupe plus particulièrement de celui de l'Île-Jourdain. Et je suis très heureux de partager encore une fois ce moment avec vous. Nous allons lire dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 22. Et à partir du verset 35, pour une réflexion sur la simplicité du message de l'Évangile. J'ai remarqué que l'homme est compliqué, les institutions religieuses sont compliquées, mais si on prend le message de l'Évangile à l'état pur, il est d'une simplicité extrême, comme nous allons le voir. Et qui mieux que Jésus pour en parler? Voici ce qu'il dit donc dans le texte que j'ai donné en référence, Matthieu 22, 35, 40. Un des pharisiens, docteur de la loi, fit cette question à Jésus pour l'éprouver. Maître, quel est le plus grand commandement de la loi? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand commandement. Et voici le second, qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Waouh ! Moi, je suis impressionné par Jésus. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Vous vous rendez compte, il est en train de parler de la Torah, de ce volume bibliographique très important, avec des centaines de pages. La loi elle-même comprend plus de 600 commandements. Et donc, se dire que on va pouvoir résumer tout cela en deux phrases, humainement, personne ne l'aurait tenté. Jésus, lui, il le dit avec beaucoup d'assurance et il veut rendre le message audible et simple. Toute la loi et les prophètes se résument en deux choses. Aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes. On va analyser cela quelques instants si vous voulez bien. D'abord, la première chose qui nous est demandée, c'est d'aimer Dieu. Pas aimer, mais l'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée. La barre est mise bien haute et c'est volontaire, puisque l'amour que nous donnons à Dieu vient en retour de celui que lui nous a donné, en donnant Jésus-Christ à la croix, pour nous laver et nous purifier de nos péchés. Et donner son Fils unique, est-ce que l'on peut nous rendre un amour à la hauteur? Non, nous ne le pourrons jamais. Notre amour sera toujours imparfait, c'est le postulat de base, on doit le comprendre. Nous ne sommes pas capables d'aimer comme lui, il aime. Lui, non seulement il aime, mais il est amour. Nous pouvons dire que nous aimons, mais nous ne pouvons pas dire « je suis amour ». Ce que nous devons considérer, c'est que Dieu voit nos cœurs et nos pensées. Et il est à même de savoir si nous l'aimons ou non. Il ne s'agit pas de la perfection de l'amour, mais de la sincérité et d'une volonté profonde, d'un engagement profond dans cet amour. Et Dieu, lui, peut le voir. Moi, je ne peux pas voir dans l'autre le degré de son amour pour moi. Mais Dieu, qui voit les cœurs, peut le voir. Et en fait, c'est là-dessus qu'il se base. Il se base sur notre cœur. Ce ne sont pas nos œuvres qui démontrent notre amour pour Dieu, c'est notre cœur d'amour pour lui. Je vais voir avec vous deux exemples dans les évangiles qui vont nous aider à comprendre ce propos. Dans l'évangile de Marc, tout d'abord, nous trouvons les mêmes propos de Christ concernant les deux commandements qui résument la loi. C'est au chapitre 12, versets 29 à 31. Je vous invite à le vérifier, c'est la reproduction de ce que nous rapporte Matthieu. Mais un peu plus loin, ce qui est intéressant, c'est de voir que Jésus va illustrer ses propos de la manière suivante. C'est dans l'évangile de Marc, donc chapitre 12, un peu plus loin, 38, versets 38 à 44. Il leur disait dans son enseignement, « Gardez-vous des scribes qui aiment à se promener en robe longue, à être salués dans les places publiques, qui recherchent les premiers sièges dans les synagogues, les premières places dans les festins, qui dévorent les maisons des veuves et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils seront jugés plus sévèrement. » Jésus, s'étant assis vis-à-vis du tronc, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Il vint aussi une pauvre veuve. Elle y mit deux petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, « Je vous le dis, en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Waouh ! Quelle histoire extraordinaire ! Qui pouvait savoir la valeur de ce que cette veuve avait mis dans le tronc ? Jésus seul, parce qu'il voit dans les cœurs. Voyez-vous, les œuvres ne peuvent être qu'une façade. Elles peuvent être dictées par l'orgueil, par la volonté de se faire voir, par la volonté de se satisfaire soi-même, prendre une revanche sur notre passé, parfois par la peur même de dire « si je n'œuvre pas pour Dieu, il va me châtier et il ne me prendra pas avec lui au paradis ». Tout ça, ce sont des intentions qui ne sont pas l'amour. Dieu voit derrière les intentions qui nous poussent à œuvrer. Je vais même aller plus loin en disant que ce n'est pas parce qu'on a fauté, même gravement, que pour autant on n'aime pas Dieu. Peut-être ça vous choque ce que je suis en train de vous dire, mais on va aller dans l'évangile de Jean, au chapitre 21, versets 15 à 17. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci ? » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ? » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ? » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paix mes brebis. » Nous voyons ici qu'alors que Pierre a gravement fauté, lui qui se vantait de ne jamais abandonner Jésus, même si tout le monde l'abandonnait, lui il resterait fidèle. Et puis vient l'arrestation de Jésus, le procès qui est en cours, et Pierre prend peur, Et alors qu'il est reconnu par une servante de la synagogue, il va nier être un disciple de Jésus. Et il va le nier par trois fois. Et puis, quand Jésus va se représenter aux disciples alors qu'il est ressuscité, nous pouvons penser que Pierre devait se faire tout petit. Et puis à un moment donné, après manger, Jésus vient et s'adresse à lui. Et là, Pierre, il devait se dire, ça y est, qu'est-ce qui va m'arriver? Il devait penser que Jésus allait lui démontrer qu'il n'était qu'un orgueilleux, etc. Mais non. Jésus va s'y prendre avec beaucoup de tact. Il va le rassurer en lui disant, au travers de trois questions, l'important, ce n'est pas que tu fasses des erreurs. Ce n'est pas que tu aies peur. L'important pour moi, c'est de savoir si tu m'aimes. Et trois fois, il va lui poser la question, m'aimes-tu? Et trois fois, Pierre va lui répondre, oui, oui, oui. Et la troisième fois, il dit, tu sais que je t'aime. Et oui, Jésus sait que Pierre l'aime. L'attitude de Jésus avec Pierre, elle est remarquable. Et en fait, encore une fois, nous, si quelqu'un nous abandonne dans un moment difficile, on va en déduire qu'il ne nous aime pas. Jésus est capable de voir dans le cœur que ce n'est pas parce que Pierre le déteste qu'il a réagi ainsi, mais c'est juste puisqu'il a eu peur, il a voulu sauver sa vie. Donc ce qui est important, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et toute sa pensée. Ça doit partir de l'intérieur et nous n'avons pas de souci à nous faire puisque Dieu voit à l'intérieur de nous. Amen. Deuxième point, nous devons aimer notre prochain. Dans l'évangile de Jean, l'apôtre nous rapporte quelque chose que les trois autres évangélistes ne nous rapportent pas. C'est que Jésus a lavé les pieds de ses disciples. Au chapitre 13, verset 14 de l'évangile de Jean, nous lisons ceci. « Si donc je vous ai lavé les pieds, moi, le Seigneur et le Maître, vous devez aussi vous laver les pieds les uns aux autres. » Et puis un peu plus tard, dans le même chapitre, au verset 34-35, il va le dire, « Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Nous sommes appelés à aimer et je ferai remarquer que Jésus parle d'un commandement nouveau. Alors qu'il cite la loi, dans le texte d'introduction qu'on a vu, il rappelle ce qui a été dit, en disant « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et là, il dit « c'est un commandement nouveau ». Mais on a envie de dire « Jésus, mais il est déjà là ce commandement, il existe déjà ». En quoi est-ce nouveau? Bien, nous le trouvons dans le verset lui-même. « Aimez-vous comme je vous ai aimé ». Cela n'apparaissait pas dans l'Ancien Testament. Aimer son prochain comme Christ nous a aimés, on l'a dit en introduction tout à l'heure, impossible. Il s'agit de donner sa vie pour son prochain. Qui est capable de cela? Jésus l'a fait. Et nous voulons lui ressembler, peut-être pas en donnant notre vie physique, mais peut-être en donnant notre temps, notre argent, notre amour tout simplement, pour notre prochain. Comme Christ nous a aimés, nous voulons aimer notre prochain. Dans Matthieu chapitre 5, Jésus rappelle que ce n'est pas l'amour des hommes, ce n'est pas même l'amour d'une mère pour son enfant, c'est bien au-dessus. Moi je vous dis, Matthieu 5, 44 à 48, moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Waouh ! Vous voulez être vraiment un chrétien, un fils, une fille de Dieu, alors vous devez être rendu capable par le Saint-Esprit, par la présence de Jésus en vous, d'aimer vos amis, d'aimer ceux qui vous maltraitent. Nous avons des revues qui nous donnent des témoignages des chrétiens persécutés et nous sommes bouleversés de voir que des chrétiens sont capables de pardonner et d'aimer leurs persécuteurs. D'ailleurs, ces derniers en sont parfois tellement touchés qu'ils se convertissent eux-mêmes. La suite du passage de Matthieu 5, « Car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de la même manière? Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Là, Jésus met la barre très haute. Mais nous devons considérer que, comme je l'ai dit, par le Saint-Esprit qui vit en nous, nous pouvons être capables de ces choses. Ne comptons pas sur nous-mêmes, sur nos propres forces, sinon, soyons honnêtes, nous n'y arriverons pas. Mais si le Saint-Esprit nous saisit, nous allons devenir capables de ressembler à Jésus qui, sur la croix, a pardonné à ceux qui le crucifiaient. Dans 1 Jean chapitre 4, verset 20, toujours l'apôtre Jean nous dit ceci. Je parle de la première épître et non de l'évangile. La première épître de Jean, chapitre 4, verset 20. Si quelqu'un dit « J'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Ici, nous avons une phrase simple qui résume ce qu'on vient de dire. En conclusion, j'aimerais dire ceci. D'abord, citer Jésus dans Matthieu 5, chapitre 17, qui dit « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Une des raisons de l'incarnation de Jésus, du fait que de Dieu, il s'est fait homme et qu'il a voulu nous montrer l'exemple. Avant sa venue, les hommes devaient accomplir toutes sortes de rituels. Ils avaient une longue liste de commandements à mettre en pratique. On l'a dit, plus de 600. Et l'histoire du peuple d'Israël nous montre que cela a été un échec. Ils n'y sont pas arrivés. Jésus vient pour nous libérer de la loi en l'accomplissant. Il est le seul homme à accomplir tous les commandements sans faillir et c'est pour ça qu'il est choisi pour être sacrifié pour le pardon de nos péchés. Parce que lui-même a pu dire et a pu être sans péché. Ah, nous ne pouvons que penser à la croix dans ces instants et remercier Jésus d'avoir donné sa vie pour nous d'une manière parfaite, d'avoir accepté lui le Saint, de porter tous nos péchés. Il aime tellement son Père qu'il lui a obéi jusqu'à aller sur la croix, mourir en sacrifice à notre place. Il nous aime tellement qu'il accepte de porter notre condamnation. C'est un avocat qui prend la place de son client. Aujourd'hui, nous n'avons plus à faire toutes sortes de rituels pour obtenir sa faveur. Désormais, il suffit de l'accepter comme notre sauveur pour être accepté de Dieu. Et ayant reçu une telle faveur, nous pouvons nous concentrer sur les deux commandements que Jésus cite. Aimer le Seigneur, notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, et aimer notre prochain comme nous-mêmes, et comme Jésus nous a aimés. Jésus, ce n'est pas une religion. Jésus, ce n'est pas des traditions, des rituels. Jésus, c'est une personne qui nous pousse à vivre l'amour. Jésus, c'est une personne qui établit avec nous une relation d'amour incroyablement intense. Si nous aimons Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, si nous aimons notre prochain comme Christ nous a aimés, alors nous n'abolissons pas la loi, mais nous l'accomplissons comme Jésus l'a fait. Alors, plutôt que de connaître la loi, plutôt que d'exercer une religion, ne veux-tu pas accomplir la loi de Dieu en aimant ton Dieu de tout ton cœur, ton âme et toute ta force, toute ta pensée, et en aimant ton prochain comme Christ nous a aimés. Soyez bénis. Vraiment, je remets ces paroles entre les mains de Dieu pour qu'elles puissent bénir nos cœurs à chacun. Amen. Seigneur, merci pour ces instants. Bénis les auditeurs qui ont écouté ce message. Vraiment, aide-les à être comme toi, comme l'exemple que tu nous as donné quand tu es venu sur cette terre. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen.
Cette joie qui m'inonde encore, mon roi, me pousse à faire monter vers toi ma voix. Ce matin, je me réveille, Seigneur, et je sens encore monter cette chaleur. Une chanson puissante en mon cœur, pour toi une vibrante clameur. Cette joie qui m'inonde sans raison, qui grandit pendant ma méditation, c'est ma réponse à tes déclarations. Mon âme qui dit oui à tes compassions. Je t'aime, Seigneur, de tout mon être. Entends ce chant en train de naître. Tu m'as aimé le premier, tu me l'as dit, et je te louerai pour cela toute ma vie. Tu m'as trouvé quand j'étais loin, quand j'étais seul. La louange d'un cœur reconnaissant. Mon roi, je veux t'aimer pleinement, car en premier, tu m'as aimé infiniment. Je t'aime, Seigneur. Sauver.
Et Dieu fait éclater son amour envers nous, en ce que lorsque nous n'étions que pécheurs, Christ est mort pour nous. Je t'aime Seigneur, au roi des rois, je fléchis les genoux devant ta croix. Tu m'as aimé quand je ne valais rien, et tu as fait de moi ton précieux bien. Je t'aime Seigneur.